Aujourd'hui, on va démarrer notre troisième message sur l'épître de Paul à Colosse. Alors, nous allons regarder ce matin ce que signifie être enraciné. C'est bon ça, être enraciné. Et comment nous allons le vivre. Alors, diapo suivante, nous avions vu que dès le début de sa lettre, Paul prie pour un renouvellement de leur intelligence afin qu'ils connaissent la volonté de Dieu, qu'ils connaissent Christ. On a travaillé la semaine dernière sur la personne de Christ, celui qui a reçu toute la plénitude divine afin de réconcilier le monde avec Dieu. Et puis, Paul n'a pas encore abordé le problème. Paul les a encouragés donc à discerner, à connaître Christ, mais il n'a toujours pas abordé vraiment la raison de sa lettre. Et on va voir qu'il va enfin y arriver au chapitre 2. Mais c'est seulement en discernant la volonté de Dieu, c'est seulement en connaissant Christ qu'on peut réellement être solide. C'est que comme ça qu'on peut vraiment ne pas se laisser influencer par des discours trompeurs qui sont parfois sous un joli couvert spirituel, n'est-ce pas? On ne réalise pas, et puis c'est des discours trompeurs. Mais si on est vraiment enraciné, ce qu'on va voir aujourd'hui, mais si on arrive à discerner, si on comprend la volonté de Dieu, alors on ne se laisse pas embarquer. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est tellement facile d'être manipulé. Vous êtes d'accord avec ça? On est manipulé par les médias, par les publicités, par les discours politiques. Puis petit à petit, on nous fait accepter des choses qui ne sont pas justes. Mais on ne réalise pas, parce qu'on en parle d'une manière que les choses sont rendues acceptables. On en parle dans ta série préférée. Petit à petit, voilà, je sais pas, si on parle d'adultère, avant, il y a 40 ans, on n'en parlait pas. Mais aujourd'hui, dans tous les films, dans toutes les séries, il y a des histoires d'adultère. Et petit à petit, c'est comme quelque chose qui rentre. Et puis on se dit, bon, finalement, tout le monde le vit, quoi. C'est normal. Et on nous fait accepter des choses comme ça, petit à petit. Dans 20 minutes aussi, si vous lisez le 20 minutes, moi j'ai arrêté. Dans chaque 20 minutes, il y a des choses comme ça qui reviennent. Et petit à petit, on voit les pubs, on voit les messages, les articles. Et ça devient intolérable, ça ne dérange plus personne. Donc on a besoin de discerner, de connaître qui est Dieu et quelle est sa volonté. Je me souviens quand j'étais aux études, on avait un cours d'éthique. C'est une bonne idée de parler d'éthique. Et on parlait des questions sur lesquelles on vote régulièrement, comme aujourd'hui en passant, j'espère que vous avez voté. Donc l'avortement, la procréation assistée, etc., etc. Et puis on devait, dans le cadre du cours, préparer un vrai débat sur un sujet d'éthique. Puis je me suis retrouvé dans les pro-avortement. Alors vous savez qu'on croit à la vie, que Dieu est la vie, et que si ce n'est pas les seuls les standards de l'homme, nous on croit que Dieu met plus de valeur encore ou ne renie pas ça. Lui, il se réjouit de la vie, c'est lui qui donne la vie. Alors moi, je me suis retrouvé un peu confronté à... J'étais dans le mauvais camp, quoi. Il fallait que je trouve des arguments pour défendre l'avortement. Waouh! Et puis, je me suis quand même pris au jeu. Vous savez, moi j'aime bien aussi un peu le théâtre. Et j'ai fait mon travail comme il faut. Alors j'ai cherché des arguments, j'ai travaillé ça très fort. Et puis voilà qu'on se retrouve le jour en classe où on allait faire le vrai débat. Et puis j'ai été tellement convaincant, il y a eu tellement d'arguments que les autres étudiants pleins de Jésus, qui aiment Jésus, qui croient à la vie, ont commencé vraiment à douter, quoi. J'ai réussi à les remettre en question avec mes arguments au point que la prof m'a dit mais Luc, rassure-nous, t'es dans quel camp? Juste pour vous dire que c'est facile de manipuler par des discours trompeurs. Avec quelques arguments bien posés, on arrive à déstabiliser les gens. Donc Paul était confronté à cette situation à Colosse et il a dû remettre les fondements de la vérité, il a dû réfuter beaucoup de fausses doctrines et il a commencé simplement en présentant qui est réellement Christ. Et puis il les a encouragés aussi en leur disant, on n'a pas vu cette partie du texte, au fin du chapitre 1, en leur disant qu'il combat pour eux et il leur dit le motif de ses propos ensuite en confrontant la situation. Là, on arrive au cœur du problème, au chapitre 2, verset 4. « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. » Donc, enfin, il aborde la réalité des choses. Ça veut dire qu'il y a bien des gens qui essaient de les tromper. Donc, il arrive au fait. « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. » Verset 8. « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. » Et puis, chapitre 2, verset 16, « Que personne, donc, ne vous juge au sujet du manger et du boire. » Donc ça, c'était ceux qui voulaient les remettre sous la loi. « Que personne ne vous juge. » Et puis, verset 18, « Que personne, sous une apparence d'humilité, et par un culte des anges ne vous ravisse. Donc on avait parlé de toutes ces choses qui étaient présentes dans l'église de Colosse dans les messages précédents. Donc quatre mises en garde fondées qui confrontent leur contexte, contexte dont Paul a été tenu au courant, je vous rappelle, par le pasteur de l'église de Colosse qui était Epaphras. Epaphras qui était leur super pasteur du moment. Et puis, au milieu de cette mise en garde, et c'est sur ça qu'on va s'arrêter aujourd'hui, au verset 6 et 7 du chapitre 2, Paul va dire « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi. » Marchez en étant enracinés et fondés. Ça, c'est l'exhortation de Paul sur laquelle on va vraiment s'arrêter. Donc, marcher avec Christ, c'est super, c'est bien, ok ? Mais marcher en Christ en étant enraciné, alors là, c'est vraiment mieux. C'est vraiment mieux. J'aime beaucoup ce mot enraciné. C'est un mot qui donne directement une image mentale. Je ne sais pas vous, mais moi, je vois l'image d'un arbre que voici. Être enraciné. Les racines, c'est puissant. Hein, on voit parfois des routes qui sont complètement déformées à cause de la force qu'il y a dans les racines. Vous avez déjà vu ça ? Alors que Dieu nous place dans son jardin, dans une bonne terre, il souhaite que nous mettions des racines. As-tu des racines ? As-tu une foi solide ? Parce que sans racines, ce n'est pas possible de tenir. Sans racines, tu ne vas pas pouvoir affronter les tempêtes de la vie, tu ne vas pas pouvoir affronter les temps de sécheresse. Et souvent, on se contente de petites racines, parce qu'en fait, on attend que le problème arrive sur nous pour réaliser, pour constater quel est l'état de nos racines. Mais Paul aimerait nous encourager ce matin à être enracinés, avant même que le problème arrive. Parce que quand tout va bien, c'est facile d'être un arbre vert. Puis c'est quand le problème arrive, alors là, on se dit « Ah ben, mince, je ne suis pas prêt, je n'ai pas des bonnes racines ». Alors il y a plein de situations qui nous poussent à mettre des racines, c'est vrai. C'est nos souffrances, nos difficultés. D'un coup, on apprend que la maladie est là. On apprend que, ben voilà, on a été trompé, on passe par le divorce, ou bien tes enfants font des choix que tu désapprouves. Ça, c'est des situations où d'un coup, t'es mal pris, puis tu dis, oh là là, où j'en suis avec mes racines ? Alors ça va nous pousser, bien sûr, mais si on le prenait avant, ce serait encore mieux. Il y a des imprévus soudains dans notre vie qui peuvent arriver, qui viennent perturber notre équilibre. Vous savez, on aime bien être équilibré, c'est bien. Mais d'un coup, on perd un emploi. Ou soudainement, on se retrouve avec des limites physiques suite à un accident. On perd un logement. Puis là, notre équilibre de vie, wow, on ne sait plus trop où on en est. Et c'est là qu'on regarde, finalement, j'en suis où avec mes racines ? Des défis, des nouvelles étapes de vie, arrivée d'un enfant. Vous savez que c'est un grand changement pour un couple. Un, deux, après, bon, c'est un peu de la routine, mais chaque fois, c'est chaque fois un changement quand même. Ça peut déstabiliser l'équilibre. Où sont nos racines ? Changement professionnel aussi, c'est des étapes importantes. Et puis, on a des périodes de remise en question parfois, justement à cause d'influences extérieures. Quelqu'un qui te pose la question, qui d'un coup te dit « Ah, en fait, c'est vrai ça, je ne m'étais jamais posé la question. Est-ce que vraiment Jésus ne pouvait pas pécher ? Est-ce que vraiment on est prédestiné ? » On se pose d'un coup des questions fondamentales peut-être, puis ça commence un petit peu à mettre notre foi en balance. Et on regarde alors si vraiment on a des racines. Alors j'ai imaginé trois types d'arbres à l'image de chrétiens. Parfois, il y a des chrétiens qui sont comme le bambou. C'est beau le bambou, hein ? Alors c'est des chrétiens qui poussent très vite. Le bambou pousse très vite, hein ? Des fois, ça peut être un mètre dans la journée. Il pousse très vite, il pousse haut. Le bambou, c'est utile à un tas de choses. Alors, il y a des chrétiens, vous êtes utiles à plein de choses, c'est super, hein ? C'est vraiment l'esprit de service, ça, je vous encourage. Et puis, malgré tout, il reste assez léger. C'est un bois léger, le bambou. Et puis, la spécificité du bambou, c'est que l'intérieur est creux. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes creux, ceux qui pensent qu'ils sont des bambous. Ça veut dire que, je vais prendre comme ça, vous n'êtes pas plein. L'intérieur n'est pas plein, l'intérieur n'est pas plein par Christ. Vous n'êtes pas pleinement comblé en Christ. Et il y a quelque chose de spécial avec le bambou, c'est au niveau des racines. En fait, les racines du bambou, elle pousse horizontalement. Donc si vous mettez un bambou, vous allez voir que très vite, vous allez avoir une forêt. Parce que ça pousse horizontalement, ça se tient ensemble, en fait. Et c'est ce genre de chrétiens qui, en fait, vous êtes populaire, vous avez plein d'amis, c'est super, mais il manque la profondeur. C'est comme si vos relations sont pour vous le ciment. Vous tenez grâce aux autres. Ce n'est pas ce que la parole nous dit. Dieu aimerait que nous soyons enracinés en profondeur sur le rocher qui est Christ. D'accord ? Donc, voilà, ces chrétiens-là puisent leur énergie dans ces relations d'amitié et non pas en Christ. Une autre image, c'est celui du peuplier. Alors, j'ai fait un petit jeu de mots dans ma tête que je ne vous ai pas encore dit. Je vais le dire maintenant. Le peuplier, il peut plier. D'accord ? Le peuplier, c'est un peu plus imposant. Le tronc est plus gros, plus lourd. On pourrait dire qu'il a plus d'expérience, de vécu. Mais malgré tout, le peuplier, il plie sous la force du vent. Souvent, on voit au bord des routes ces peupliers qui se couchent presque. C'est assez impressionnant. Et puis bon, après, c'est sûr, ils reprennent leur position. Ils reviennent à la position verticale. Donc, quand on les voit, on pense que c'est très, très solide à cause de la force de leur tronc. Mais malgré cela, ils se laissent vite perturber. Donc, c'est des chrétiens qui se laissent quand même vite perturber, qui sont vite déséquilibrés et qui se remettent rapidement en question sur des sujets importants. Et puis, la troisième image, c'est celle du cèdre ou du chêne. Un arbre imposant, vous voyez, qui loue Dieu comme ça. Magnifique. Alors, c'est vrai que c'est un arbre haut, imposant, des troncs incroyables. On peut penser aussi au séquoia, peut-être ceux qui sont allés au Yosemite Park en Californie. Là, vous allez voir, c'est des troncs. Ils ont même réussi à faire un tunnel dans le tronc, tellement le tronc est impressionnant. Alors ça, c'est des arbres imposants qui ne bougent pas. Le vent peut être là, le vent peut être violent, l'arbre ne vacille pas, il reste en place. Donc ce sont des chrétiens qui ont des racines énormes, puissantes. Ils vont chercher leurs ressources en profondeur. Voilà le genre de chrétien que nous sommes appelés à devenir. Amen. Alors il y a deux textes dans la parole qui prennent l'image d'un arbre pour décrire l'homme enraciné. Dans le premier texte, l'homme enraciné est un homme qui médite la parole. On va trouver ce texte dans le psaume 1, que tout le monde a appris par cœur à l'école du dimanche. Psaume 1, je lis avec vous. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Il est comme un arbre qui est planté, un arbre enraciné, près des courants d'eau. Il donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Donc dans ce psaume, le chrétien enraciné, à l'exemple d'un arbre bien planté, c'est un chrétien qui médite la parole, qui aime la parole. Si tu n'es pas enraciné dans la parole, donc tu risques de te laisser séduire, tromper, comme on l'a vu. Alors que tu marches, c'est en mouvement, petit à petit tu vas suivre une autre voie. Tu vas entendre quelqu'un d'autre te parler, puis tu vas suivre une autre voie. Et puis on voit la progression dans ce texte, que l'étape suivante, c'est que tu vas emprunter de plus en plus souvent la voie, la mauvaise voie, pour finalement t'y arrêter, t'arrêter avec le pécheur. Et puis ensuite, tu vas t'asseoir, tu vas t'installer dans ce péché-là. Tu vas vraiment t'y arrêter pleinement, t'installer pleinement avec le moqueur. Donc il y a une progression, ça commence par quelque chose de petit, peut-être une parole justement qui va semer le doute dans ta foi, une philosophie séduisante, comme c'était le cas pour les Colossiens, et petit à petit tu te détournes, tu t'arrêtes dans le péché, tu finis par t'y installer. Alors si tu veux être enraciné ce matin, et j'espère que tu le veux, tu as besoin d'être enraciné dans la parole. Méditer la parole jour et nuit. Bon. Je sais ce que vous allez me dire, c'est déjà compliqué le jour, alors la nuit, comment on va faire pour mettre en pratique la parole de Dieu? Peu importe le moment, mais cherchez le conseil de Dieu en tout temps. Ne vous contentez pas d'un verset sur le top chrétien, même si c'est très bien. J'encourage les jeunes convertis à prendre leur verset du jour sur le top chrétien, mais ne vous arrêtez pas à ça. C'est pas suffisant, vraiment c'est pas suffisant. Soyez enracinés dans la parole, prenez du temps dans le lieu secret, dans la prière. Lorsque vous prenez du temps dans la présence de Dieu et que vous l'écoutez, écoutez bien ça, il y a 100% de chance que Dieu vous parle. 100% de chance. C'est magnifique, non? Quoi de mieux qu'une parole pour votre vie, pour votre situation, une parole qui vient de Dieu et que vous recevez vous-même dans la présence de Dieu. Ce n'est pas les autres toujours qui doivent venir vous dire quelque chose, mais vous trouvez le conseil de Dieu, vous trouvez la vérité dans la parole de Dieu pour votre propre vie. Quoi de mieux que des promesses qui viennent de Dieu? On sait que les promesses de Dieu sont infaillibles. Elles sont vraies. C'est lui qui a tout créé, qui domine toutes choses. On l'a vu, Jésus qui est au-dessus de tout, qui a ouvert le chemin, qui ouvre un chemin pour toi, comme ce brise-glace, on en avait parlé. Quoi de mieux qu'une parole qui vient de sa part, une promesse de sa part? Dans son livre intitulé « Secret de l'intimité avec Dieu », l'auteur Bob Sorge débute le premier chapitre avec l'histoire d'un couple d'amis. C'est pour nous faire envie de lire le livre. Ce couple d'amis s'appelle Chris et Diane, qui étaient dépassés par un défi financier énorme. Alors ils ont pris du temps pour prier. Ils exposent la situation au Seigneur dans leur salon, hein, sur leur canapé. Vous imaginez le couple. Ils se retrouvent, ils ont un défi compliqué financièrement. Et puis ils commencent à prier. Ils exposent la situation au Seigneur. Et puis soudainement, ils entendent quelque chose audiblement. Ils entendent « Si vous avez besoin d'aide, appelez le 911. »« Si vous avez besoin d'aide, appelez le 911. » Plusieurs minutes comme ça, puis ils se disent « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Alors le bruit s'arrête, puis là ils disent « ça venait du garage ». Alors ils se lèvent, puis ils ouvrent le garage, puis rien n'a bougé. Puis d'un coup, ah, ils s'en coupent presque sur le jouet de leur fils, une petite ambulance, et quand on appuie sur les gyrophares, et ben ça fait « si vous avez besoin d'aide, appelez le 911 ». Donc le 911 aux États-Unis, c'est les urgences. Et puis là, le Saint-Esprit les conduit simplement à lire le psaume 91, verset 1. « Celui qui habite au secret, sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Amen. Alors ils ont compris que par cet incident, Dieu dirigeait leur cœur vers un engagement renouvelé à cette relation avec lui dans le lieu secret, dans l'intimité. Ils voulaient que leurs racines aillent plus en profondeur et que Dieu dirigerait bien sûr leurs pas concernant les besoins financiers à mesure qu'ils se consacreraient à demeurer dans l'intimité de la présence du Tout-Puissant. Vous savez, les racines, ce n'est pas quelque chose de visible. Puis c'est ça qui est traître. Les racines, on ne les voit pas. C'est pour ça que ces racines, il faut les mettre dans l'intimité. Les autres ne vont pas voir vos racines. Donc, il ne faut pas essayer de regarder à ce que les autres voient de vous ou pensent de vous, mais il faut que vous, vous sachiez l'état de vos racines. Ça se passe dans l'intimité. Nous mettons des racines alors que nous développons cette relation d'intimité avec Dieu dans le lieu secret, dans la méditation de la parole, dans la prière, dans le jeûne. Donc en passant, je vous recommande ce livre, je crois qu'il est à la librairie d'ailleurs, ça vous aidera certainement à grandir dans votre relation d'intimité avec Dieu et être des femmes et des hommes enracinés. Alors si je reviens à ce psaume 1, nous découvrons qu'un chrétien enraciné dans la parole, diapo suivante, reste toujours verdoyant. Voilà, il reste toujours verdoyant, il a de l'eau en abondance, il donne du fruit comme il se doit. En sa saison, naturellement, d'accord? Et puis, il réussit ce qu'il entreprend. Souhaitez-vous cela ce matin? Qui ne souhaite pas réussir, finalement, ce qu'il entreprend? Souhaitez-vous porter du fruit? Moi, vraiment, on en revient là. Souhaitez-vous porter du fruit ou rester stérile par manque d'eau, par manque de racines? Bien sûr, je peux parler tout ce que je veux, mais c'est vous qui devez savoir ce que vous voulez faire avec ce que je dis. Ça commence par vous, vous savez ce que vous avez à faire. Deuxièmement, l'homme enraciné est un homme qui fait confiance à Dieu. Et on voit cela dans ce deuxième texte de Jérémie, au chapitre 17, versets 7 et 8, où il est dit ceci, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté, comme un arbre enraciné, près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point crainte, et il ne cesse de porter du fruit. » Amen. Donc, l'image du chrétien ici enraciné, c'est un chrétien qui se confie en l'Éternel, qui met son espérance en l'Éternel et non en l'homme. Ce n'est pas le roseau qui vient se confier à son copain, mais non, tu mets ta confiance en l'Éternel. C'est ça que Paul souhaite pour ces chrétiens de Colosse, qu'ils étendent leurs racines. Et c'est tellement vrai pour nous. Alors, pour relever quatre choses similaires au texte précédent du psaume 1, qu'est-ce qui se passe quand on est un chrétien enraciné? Il ne souffre pas de la chaleur, il reste vert, il ne craint pas la sécheresse, il porte du fruit en tout temps. La chaleur, on peut dire que c'est ces moments difficiles. Les moments difficiles à vivre, c'est les saisons intenses. C'est des virages, vous savez, des fois il y a des virages qui sont difficiles à négocier. C'est une relation tendue, ou bien une source extérieure même, qui essaye de te faire du mal. Ça, c'est la chaleur. Puis la sécheresse, par définition, c'est un manque d'eau qui est généralisé. Tout est sec. C'est les temps de désert spirituel. Vous avez déjà connu des temps de désert spirituel ? Ça arrive, hein ? On est un peu perdu, c'est sec, on lit la parole et puis on n'a pas de feeling. On a l'impression que la relation qu'on avait avec Dieu n'est plus la même. Il y a quelque chose qui manque. C'est un peu le calme plat. Puis on a perdu un peu la motivation. Peut-être qu'il y en a qui sont comme ça ce matin. Bien, le texte nous dit que celui qui étend ses racines, il ne craint pas ces moments de désert et de sécheresse. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas les vivre, d'accord ? Mais il n'en a pas peur. Il n'a pas peur de la sécheresse ni des grosses chaleurs parce qu'il a mis sa confiance en Dieu. Et ça, c'est tellement important. Il y a beaucoup de gens qui appréhendent, qui disent « Ah, mais oh là là, ça va être compliqué cette histoire » ou bien « Voilà, il va y avoir un changement ». Non, tu n'as pas peur de ces moments-là parce que tu as ces racines profondes. La confiance, c'est donc se fier entièrement. Et la meilleure manière d'illustrer cela, j'ai hésité de le faire, mais je me suis dit, je vais me retenir, ce serait que votre voisin vous bande les yeux. Vous seriez motivé ? Colla maillard. Lorsque tu as les yeux bandés, tu es obligé de faire confiance, de te fier aux indications de l'autre. Tu ne peux pas juger la situation par toi-même. Tu es obligé d'accepter, en fait, de perdre le contrôle. Ça, c'est compliqué de perdre le contrôle. Laissez le contrôle à Dieu. Si Dieu te dit de sortir, mais qu'il pleut dehors, hein, vu qu'il ne fait que de pleuvoir là, alors tu as deux choix. Soit tu vas prendre un parapluie, parce que tu vois qu'il pleut dehors, ou bien tu dis, Seigneur, on attend une heure, et puis tu me redemandes dans une heure, peut-être je vais sortir, quand tu auras un rayon de soleil. Mais si tu as les yeux bandés, tu vas sortir sans te soucier du temps. Tu ne vas pas regarder s'il pleut, tu ne vois pas. Donc tu vas faire confiance que celui qui te dit de sortir, soit il a prévu le parapluie à ta place, ou en tout cas, il sait ce qu'il fait. Donc, tu vas sortir. Et nous, on juge toujours, on regarde autour de nous et on ne fait pas pleinement confiance. On regarde à la météo, on voit qu'il va faire chaud, puis on se dit, oh là 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 là, qu'est-ce qu'il va faire chaud demain, ça va être dur. Hein, ou tu sens que ça va être une saison de compliquée pour ta vie. Oh là là, non, comment je vais faire? Je ne vais pas tenir. Ça, non, je ne crois pas que ça va le faire. Les circonstances qui t'entourent, Dieu, lui, il les connaît parfaitement. Vous êtes d'accord avec ça? Dieu s'en occupe. On sait tous qu'il y aura des déserts à traverser, mais Dieu souhaite que nous lui fassions confiance en tout temps, en toutes circonstances. Donc il te dit encore ce matin, tu ne seras pas déçu si tu le laisses gérer ton histoire jusqu'au bout. Et j'insiste sur le jusqu'au bout. Parce que souvent, Dieu commence quelque chose, Dieu commence une œuvre, et puis ça ne va jamais comme on veut, forcément, parce que c'est lui qui gère. Et puis on aimerait l'arrêter. On regarde dehors, et il pleut. On arrête là, Saint-Esprit. Non, c'est bon. Tu as commencé un travail, mais là, non. Il faut le laisser gérer jusqu'au bout. Parce que lui, il sait où il va vous amener. Donc peut-être qu'il y aura des temps de désert, peut-être qu'il y aura des tempêtes, c'est quasiment sûr, mais laissez-le finir son travail au travers de vous. Alors on doit écouter sa voix, fixer nos regards sur lui, et puis on ne doit pas regarder trop autour de nous. Déluge, sécheresse, brouillard. Notre job, notre travail, c'est d'avancer avec Jésus, de le suivre dans la direction qu'il indique. Si nos racines de confiance sont établies, sont solides, alors on ne va pas vaciller. On n'aura pas peur des circonstances. La confiance enlève la crainte. Donc ce matin, tu peux lui faire confiance. Lâche prise, étends tes racines. Et puis tu verras que même dans l'épreuve, tu peux garder la joie. Le fruit, c'est quoi ? On pourrait penser que c'est le fruit de l'esprit. La joie, la paix, la bienveillance, la patience. Tu peux garder ce fruit-là, même dans les temps de sécheresse. Vous le croyez ce matin ? Le texte précise que cet arbre étend ses racines vers le courant. Ça va être ma dernière pensée ce matin. C'est une précision essentielle. Tu peux étendre tes racines, mais si tu ne les étends pas vraiment vers la rivière de Dieu, vers la rivière de l'Esprit-Saint, vers la source d'eau qui donne la vie, tes feuilles vont quand même finir par sécher, brûler au soleil, parce qu'il faut aller jusqu'à la source. On sait que sous la terre, il y a de l'eau, d'accord ? Donc il faut aller mettre ses racines pour aller jusqu'à l'eau, chercher l'eau, la rivière de Dieu. C'est sûr qu'un arbre, par définition, il étend ses racines pour aller chercher les nutriments dont il a besoin, et l'eau tout particulièrement. Mais nos temps de souffrance ou de sécheresse, comme je l'ai dit en introduction, devraient vraiment nous pousser à aller chercher cette eau, à étendre nos racines. Dieu utilise ces temps d'épreuve pour nous mener tout près de lui. Ça, vous le savez, mais il faut le vivre. Il vient, il veut qu'on soit tout près de lui, il veut qu'on vienne puiser à sa source. Alors, comme je le disais, il y a beaucoup de chrétiens qui se satisfont de petites pluies régulières. C'est quoi les petites pluies régulières? Les petits encouragements, les prédications du dimanche. Hein, moi, je ne suis pas en train de vous donner la source d'eau vive, là. C'est juste une petite pluie. La prière de l'homme d'onction. Ça, on rigole toujours. Hein. La prière de l'homme de Dieu. Ben, vous êtes tous des hommes et des femmes de Dieu. On vous encourage à grandir avec Dieu. Les caresses dans le sens du poil. Oui, c'est bien. Oui, avance, c'est bien. T'inquiète pas, ça va aller. Et puis, voilà, les gens restent dans leur routine, dans leur sécurité, dans leur confort, dans leur petit cocon. Puis tout va bien. Ils sont verts. Jusqu'au jour où la pluie ne vient plus, jusqu'au jour où d'un coup le soleil est trop fort. Donc comme je l'ai dit, difficultés, mauvaises nouvelles, défis. Et puis là, ils perdent leur couleur, puis ils commencent à sécher. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Semaine de jeûne et prière à l'église. Intense. On vient, puis on crie, on se met à genoux, puis « Seigneur, une fraîche rosée !» Voilà, et puis hop, c'est reparti. Et puis on est de nouveau un petit peu humide. Et ça va jusqu'au prochain coup de soleil. Puis la relation avec Dieu fait des hauts et des bas. Il n'y a pas une stabilité qui est là. Il y a des périodes très bonnes, le gars il est en feu, puis il y a des périodes très mauvaises. Il y a des gens qui sont là pendant 3 mois à 200% à toutes les réunions, puis après ils disparaissent pendant 3 mois. Alors je vais vous poser une question. Est-ce que c'est normal que notre relation fasse des hauts et des bas? Est-ce que c'est normal? Moi, je dis, il est normal d'avoir des difficultés, il est normal d'avoir des temps d'épreuve, mais notre relation avec Dieu, elle ne devrait pas être impactée. Si on a vraiment des racines qui vont vraiment à la source profonde, alors on va continuer donc à porter du fruit. On va continuer à rester vert. On va continuer à être irrigué, renouvelé, même dans les temps d'épreuve. Alors je rappelle, ce n'est pas aux autres de combler votre besoin en eau. Et j'insiste ce matin, ce n'est pas aux autres de combler votre besoin en eau. Ils peuvent vous donner un peu d'engrais, c'est vrai. Ils peuvent vous rafraîchir par un encouragement. Ils peuvent vous donner un doux rayon de soleil avec un geste plein d'affection. Ça fait du bien, c'est super, c'est important. Mais ce n'est pas ça. Enfin, votre vie ne doit pas dépendre de ces moments-là. Votre vie ne doit pas dépendre de ça. Vous avez besoin d'être enraciné, d'aller puiser l'eau à la source souterraine, en profondeur. Alors, comme il était mis tout à l'heure, le terme enraciné dans notre texte de base signifie faire aller à la source, raffermir par les racines. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Paul encourage, exhorte l'église de Colosse à mettre des racines qui vont aller à la source, qui vont être raffermis par les racines. Et c'est valable pour nous aujourd'hui. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marcher en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi. Vous avez envie d'être enraciné? Une exhortation simple, mais j'espère juste que ça va vous encourager à ne pas vous satisfaire de l'état actuel des choses. Alors je vous pose ces questions. À quelle profondeur sont mes racines? À quelle profondeur sont vos racines? Posez-vous cette question. Est-ce que je me laisse facilement ébranler ou pas? Comme je l'ai dit, le but n'est pas d'attendre la sécheresse pour étendre nos racines. Mais il faut être préparé à la sécheresse. Et ça commence par la méditation de la parole, par le lieu secret. Ça commence par la confiance en Dieu. Amen.